Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Vous êtes romancier, faut-il vous présenter? Depuis votre succès planétaire, il n'y a pas d'autre mot, les fourmis, vous avez vendu plus de 30 millions de livres à travers le monde, traduits dans une quarantaine de langues, et c'est une des rares bonnes nouvelles du confinement. 40 écrivains ont écrit 40 nouvelles du lendemain, des nouvelles offertes chaque jour sur le site de Cultura, également sur la page Facebook du festival Lille Noire, un festival de polar, Lille, L-I-S-L-E. 40 auteurs, dont Michel Bussy, dont Mathias Malzieux et vous-même, Bernard Werber. Racontez le projet vu de votre point de vue. Comment, pourquoi vous avez dit oui? Ça vous est une occupation?
Oui. D'abord, j'écris une nouvelle tous les jours. C'est une sorte de petite gymnastique de créativité que j'aime bien pratiquer.
Toujours ou depuis la crise?
Non, j'écris toujours, mais le grand truc, c'est que en fait, j'écris pas tous les jours une bonne nouvelle. Oui. Donc après, je sélectionne. C'est plus la quantité que la qualité. D'accord. Donc après, je sélectionne les meilleurs. Et là, quand Cultura et Lille sur Noir m'a proposé ce projet, je me suis dit, c'est amusant de réfléchir à quelque chose qui soit un peu plus sympathique que dire qu'on va avoir des problèmes. La science-fiction souvent est associée à quelque chose précisément de pessimiste. Ouais. Alors je crois qu'il faut arriver à dire, attendez, il y a une possibilité que les choses s'arrangent et que tout ce qui nous arrive finalement ne soit pas si mauvais que ça.
Vous venez de répondre à la question qu'elle est arrivée, sur quelle base vous étiez parti. Alors Bernard Werber, j'ai une surprise pour vous. La nouvelle est très courte et j'ai demandé à un très grand comédien et un très grand lecteur de commencer à la lire pour nous. On va écouter Jacques Weber qui lit votre nouvelle « Homo Confinus ».
Quel honneur !
Ils avaient dit que cela allait durer 3 semaines, c'était il y a 3 ans, et puis tout le monde avait fini par s'habituer à vivre confiné chez soi. En fait, l'être humain s'adapte à tout. On était passé de l'Homo sapiens à l'Homo Confinus. L'homme préhistorique était sorti de la caverne pour se répandre sur toute la planète, puis se retrouver confiné dans son salon, où il avait trouvé toute solution à sa survie. Le divan, la télévision, la télécommande, l'ordinateur, le smartphone, les conserves, le surgelé, le micro-ondes, le renouvellement était assuré par une distribution effectuée par drone. Cependant, le virus s'avérait de moins en moins une simple grippe, et de plus en plus un truc compliqué, incompréhensible, qui n'arrêtait pas d'évoluer. Et le nombre de morts continuait d'augmenter. Il y avait en outre des émeutes dans certains quartiers, car les pauvres attaquaient les épiceries et les pharmacies. Il fallait en venir à des mesures encore plus drastiques. Alors le gouvernement décida de passer au stade suivant, et ce fut le plan qu'il nomma le CRS, pour confinement républicain sécurisé. Trois mots qui en soi étaient plutôt rassurants, mais qui signifiaient l'installation d'une vie souterraine.
Alors on s'arrête là, d'abord réaction.
J'aurais su que Jacques Weber allait lire mon texte, j'aurais écrit encore mieux. C'est un grand honneur. Surtout que souvent on m'a confondu avec lui. Je me rappelle une fois j'étais accueilli à un endroit, on m'a dit « Ah merde, on croyait que vous étiez Jacques Weber
». Ah oui, Weber, oui, il y a une consonance.
Oui.
Alors j'en viens au fond de votre nouvelle. Pourquoi avoir imaginé une vie souterraine humaine? Est-ce que ça vient de votre indéfectible fascination pour les fourmis?
Peut-être. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai vu à Montréal, qu'on pouvait organiser toute une vie sous terre, notamment eux, c'est pour lutter contre le froid, la neige et la glace, et qu'en fait, cette vie sous terre était supportable.
Ouais.
Et je me suis dit, peut-être que ce qu'on doit trouver comme solution par rapport à tous les problèmes, j'ai vu qu'il y a encore Tchernobyl aussi qui faisait des siennes.
Ouais, c'était 7 000,
ce matin.
Ouais. Un incendie dans la forêt à côté.
Voilà, donc entre Tchernobyl, entre l'air qui devient de plus en plus pollué, entre la chaleur, finalement peut-être que la vie sous terre pourrait être une solution. Ça serait une manière, mais il faudrait organiser ça des cités entières. Il faudrait construire un système confortable, et dans ce cas, l'homme vivrait sous l'épiderme de sa planète et pourrait vivre pas trop mal, tout en permettant en surface aux forêts de repousser, aux océans de devenir propres et à l'air de devenir aussi plus pur.
Et comme vous aimez bien les calembours un peu foireux, vous appelez ça le top niveau, mais taupe comme une taupe, T-A-U-P-E, c'est dans votre texte. Je le rappelle, la nouvelle est à découvrir sur le site de Cultura. C'est évidemment gratuit. Les auteurs ne sont pas rémunérés, mais il y a une cagnotte en ligne qui peut inviter le lecteur à donner pour la Fondation de France. Vous vivez comment votre confinement vous-même, Bernard Werber?
Alors, en fait, moi, le matin, je vais travailler au café et j'aime bien être seul au milieu de la foule. Donc là, je suis seul chez moi. C'est un peu plus compliqué, mais dès le moment où je ferme les yeux pour laisser venir les idées et puis après que je m'écris, je bascule dans un monde de rêve. Donc ça change pas grand-chose pour mes matinées. C'est plutôt les après-midi où j'aimais bien me promener en forêt. Et là, ça fait quand même plus de 20 jours que je n'ai pas bougé de chez moi.
Ouais.
Et je trouve quand même qu'il y a une chose, c'est que les nouvelles technologies, le fait qu'on ait tous ces ordinateurs, toutes ces machines, ça permet quand même de vivre ça bien mieux que le vivaient nos ancêtres quand ils devaient avoir la peste, ils devaient rester enfermés télévision, sans téléphone, sans rien.
Puisque vous lancez ce sujet, il se trouve que j'ai parmi mes livres de chevet une énorme somme que vous avez publiée il y a quelques années, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est les livres 1 à 11 réunis, il y en a pour 700 pages. Et en cherchant un peu, j'ai découvert que vous aviez écrit deux articles qui se suivent, la peste et ensuite la grippe. Et on apprend que la peste comme la grippe viennent du même pays.
Oui, c'est la Chine. Déjà, à l'époque, quand ils ont commencé à avoir les premières grandes épidémies, suspectaient la Chine.
Ouais.
Mais il semble que ce soit le fait que en Chine, déjà à l'époque, ils faisaient vivre les animaux à l'intérieur des maisons et des appartements. Ça, ce qui était vraiment original, c'est-à-dire qu'ils vivaient au milieu des canards, notamment, des porcs et des chèvres. Du coup, il y avait beaucoup d'interactions entre l'homme et l'animal.
Exactement.
Qui faisaient muter les virus.
Et là, voilà. C'est parti, le coronavirus est parti soit du pangolin, soit de la chauve-souris, c'est pas le porc, mais en tout cas un mammifère. Dernière toute petite question, je reviens à la peste. Le rat était le premier vecteur en Europe en 1348, et si la peste, dites-vous, se développe aussi rapidement, c'est à cause d'une interdiction, ou plutôt d'un bannissement voulu par le Vatican, en quelques mots.
Oui, à partir du moment où l'Empire romain s'est converti au christianisme, l'empereur a dit que les chrétiens ne devaient pas avoir de chats. Et les chats ont été associés à des animaux de sorcellerie et à des animaux maléfiques. Donc les chats étaient massacrés toutes les Saint-Jean. Les bons chrétiens devaient attraper les rares chats qu'ils avaient et les jeter au bûcher. Résultat, quand il y a eu la peste, on avait tous les quartiers juifs notamment où il y avait des chats ont été protégés et les quartiers chrétiens où il n'y avait pas de chats ont été décimés, ce qui fait qu'après les chrétiens pensaient que c'était la faute des juifs, mais ils n'avaient pas fait le rapprochement avec les chats.
Mais
il y a
merci.
D'autres gens qui ont été protégés d'ailleurs. C'était aussi les gens qui utilisaient de l'huile, les marchands d'huile, les chèvriers, parce qu'ils avaient des odeurs tellement fortes que ça repoussait les rats. Mais l'association avec le rat ne s'est faite que très très tard, et donc vers 1900, et on comprenait pas on n'a pas compris que en fait les gens qui avaient des chats étaient protégés de la peste, alors que les gens qui n'avaient pas de chats mouraient.
Voilà, vive les chats. Merci beaucoup Bernard Werber, je rappelle votre nouvelle du lendemain, elle se trouve sur le site de Cultura. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Culture Média qui continue. Dans un instant, on va retrouver notre premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. On va parler de réédition en vinyle d'albums merveilleux. Marvin Gaye, Nina Simone. À tout de suite.